Nous avons donc terminé ce premier axe de recherche de la philosophie première. La question du qui est-il, qu'est-ce, ce qui est, du point de vue de l'être, ou du point de vue de ce qui est, peu importe, hein, je dis l'être parce que c'est mieux, du point de vue de l'être. Donc, c'est vraiment le premier axe de toute la recherche de la philosophie première. Le qui est-il ? Qu'est-ce que c'est que ce qui est, qui m'est donné dans le jugement d'existence ? Ceci est, quand vous prononcez ce jugement, désir, découvrez qu'au-delà de toutes les diverses modalités, c'est la réalité, l'exister, vous regardez. Et vous interroger en vous demandant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a de fondamental et de premier dans ce qui est vu du point de vue de l'être. C'est la première interrogation au plan philosophique. C'est la première recherche au plan philosophique. Vous êtes sous cette interrogation, c'est important. Notre intelligence progresse quand elle interroge. Dès que vous n'interrogez pas, vous êtes au repos. Alors le repos peut être une stagnation, n'est-ce pas, et vous vous enfoncez et vous n'avancez pas. Si on n'avance pas, c'est parce qu'on n'interroge pas assez. Interroger, c'est l'intelligence qui est comme un arc tendu, avec une flèche orientée vers un but. Une interrogation implique toujours, une orientation. C'est le propre de l'interrogation. C'est la différence de l'expérience. L'expérience, oui, je touche ça, je vois, tiens, il y a des nouvelles têtes, c'est une nouvelle expérience, c'est des choses particulières, et c'est vrai, chaque fois qu'il y a des têtes nouvelles, c'est un nouveau face-à-face, hein, c'est différent, il y a quelque chose qui tient, qu'est-ce que c'est? Puis j'interroge, je peux très bien ne pas interroger. Quand je suis fatigué, je n'interroge pas. Oh, tant pis, mais le vieux professeur, un de plus, un de moins, je ne suis pas dans l'ordre de la quantité, voilà. Alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune interrogation, tandis qu'au contraire, si on est dans un état de vigueur intellectuelle, on interroge et on veut aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que ce qui est vu du point de vue de l'être? Donc ça, c'est la première interrogation. Parce que l'interrogation du TST, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? C'est le gosse, vous savez, qui pose toujours cette question. Hein, c'est fondamental comme interrogation. On se pose toujours cette question, qu'est-ce? Donc quand on se pose cette question, on découvre progressivement que ce qu'il y a de premier dans ce qui est du point de vue de l'être, ce qui est premier, donc le principe c'est ce qui est premier. Et comme ce principe est en même temps cause, on dira ce qui est premier et ce qui est cause, puisque toute cause est un principe, ce qui est premier c'est l'ousia. Je le mets en grec pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire c'est l'ousia, c'est-à-dire la substance. Grand problème de la substance. C'est très difficile de savoir ce que c'est que la substance. C'est très très difficile, il faut bien le comprendre. C'est pas commode du tout pour nous découvrir, avoir une signification profonde de ce qu'il y a de premier, de fondamental dans l'analyse que vous faites de l'être. Dès que vous interrogez, vous analysez. L'expérience, on n'analyse pas, on décrit. Tandis que dès que je veux comprendre, j'analyse, je ne peux pas faire autrement. C'est la pauvreté de mon intelligence. J'ai de temps en temps des petites intuitions, ça m'aide à mieux interroger. Quelqu'un qui a des petites intuitions, ça doit augmenter en lui son capital d'admiration et donc de beaucoup mieux interroger. Il interroge plus. Dès qu'il a des intuitions. Quelqu'un qui n'a pas d'intuition n'interroge pas. Quel intérêt ça a-t-il? Vous n'avez pas compris. Votre intelligence, elle est complètement horizontale, elle n'est pas tendue. Donc on interroge, on découvre ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, la substance. Et dès que je découvre la substance, à la différence de la qualité. C'est la première division dans l'ordre de l'être, c'est la première séparation que je fais. Dans la réalité, il y a des qualités. Ça, les qualités, je les vois tout de suite. Hein. Il a des yeux bleus, qualité. Il a des yeux différent que bleu, n'est-ce pas? Alors, c'est une qualité. Il est grand. C'est de la quantité. Hein? À côté de la qualité, il y a la quantité. Ça, dès que je parle de qualité, je parle de quantité. C'est très curieux, ça ne peut pas être autrement. Et je les oppose. Hein? Il y a une espèce de dialectique très curieuse entre la qualité et la quantité. Une opposition constante. Et puis, je vois qu'il y a des relations. Tout ça, c'est toujours pour mieux comprendre ce que c'est que la réalité. Et c'est toujours dans l'ordre de la première interrogation, qu'est-ce? Je veux savoir la détermination. La détermination fondamentale de la réalité, c'est la substance. Pour un être humain, son âme, c'est sa substance. Il faut découvrir qu'on a une âme. Hein. C'est vrai. C'est comme ça qu'on peut arriver à l'aimer. Mais ça met du temps. Parce qu'elle est souvent très enfouie. Vous découvrez vite que vous avez un visage. Ça, ça se voit encore assez facilement. N'est-ce pas? Alors vous pouvez trouver qu'il est agréable. N'est-ce pas? Et vous pouvez trouver qu'il est très désagréable. Donc, qu'est-ce que j'ai comme visage? Heureusement que mon âme n'est pas... semblable à mon visage, parce que c'est je vois la différence entre les deux. Je dis que quand je découvre la substance, je découvre l'âme, c'est vrai, il y a une âme spirituelle en moi, qui est la substance. Je découvre la substance et par là je découvre l'âme. Et je découvre qu'il y a en moi quelque chose qui est très intérieur. L'intériorité de l'être, c'est la substance. L'intériorité de l'être, c'est la substance. Et l'aspect visible, l'invisible et le visible. Le visible, c'est la qualité, c'est la quantité. Ce sont les relations, tout ça, ça se voit. Et c'est ordinairement à cause, parce que ça se voit, qu'ordinairement je reste là en face de ça. Ça, c'est une manifestation de l'être. Et beaucoup de philosophes identifient l'être et le visible, sans voir l'invisible. Vous savez bien, la violente réaction d'un Nietzsche, c'est de dire, prétendre qu'il y a une distinction entre le visible et l'invisible, c'est le grand mensonge métaphysique. C'est important parce que Nietzsche est tout proche de nous. Hein. Alors on est tous un peu influencés par Nietzsche, sans le savoir. Quand on le sait, ça va mieux. Mais quand on ne le sait pas, c'est encore pire. Alors on croit qu'il y a que la manifestation visible. Pour Nietzsche, l'être, c'est ce qui se manifeste. C'est le jugement esthétique. Le jugement qui se donne directement d'après nos sensations, d'après les manifestations. Et l'invisible, ah ça c'est le mensonge. C'est la vieille métaphysique qui ment. Qui ment parce qu'elle prétend qu'elle est invisible. Ça prouve, quand on dit ça, ça prouve qu'on n'a jamais saisi le mystère de l'intériorité. L'intériorité, regardez-vous dans la glace. Hein. Et là, vous avez tout de suite l'expérience de l'intérieur et de l'extérieur. Hein. C'est bien évident. Vous voyez bien que oui, les autres vous voient de l'extérieur et vous, vous voyez de l'intérieur, normalement. Vous voyez de l'intérieur. Et dès que vous trouvez la distinction entre antérieur et extérieur, vous comprenez qu'il y a une recherche de l'intériorité de l'être. Et cette recherche de l'intériorité de l'être, c'est justement découvrir ce qu'est le premier. Le premier, c'est-à-dire la source. Alors je dis source dans un langage métaphorique. C'est pour que je comprenne mieux. Un langage symbolique. Tout principe est source. Toute source est principe. C'est sûr. C'est ce à partir de quoi il y a un jaillissement. C'est ça le principe. Ce à partir de quoi. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Aller au-delà de la source. Vous verrez ce que c'est. C'est vrai, on ne peut pas aller au-delà. C'est propre de la source. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est ça le principe. Là s'arrête l'analyse. Là s'arrête l'analyse. Quand je suis en face d'un principe, là s'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas creuser plus. Mon intelligence s'arrête devant quelque chose qui est indivisible. Absolument indivisible. Et qui se manifeste à moi comme expliquant, donnant l'explication de tout le principe, une source. Voilà le premier acte de ma philosophie, première. Deuxième, puisque de fait, hein, nous avons vu au début de l'année que toute recherche philosophique se fait par les interrogations. Il ne faut pas l'oublier, ça. Toute recherche philosophique se fait par les interrogations. Et je vous ai demandé à ce moment-là de voir si vous aviez d'autres interrogations que les fameuses interrogations qu'Aristote nous donnait. Aristote est le philosophe de l'interrogation, à la suite de son grand-père, qui était Socrate, et qui est le philosophe de l'interrogation, ça c'est sûr. Platon, fatigué, voulant dominer, n'a plus interrogé, et a fait la dialectique. La dialectique est un signe de fatigue, toujours. Signe de fatigue, parce qu'à ce moment-là, on n'interroge plus. Quand on interroge, comprenez, on a peur que l'autre dise autre chose que ce que vous pensez. C'est pour ça que l'interrogation implique une certaine capacité de lutte. La lutte, c'est pas du tout dans la dialectique, pas du tout. La lutte, une vraie lutte, une lutte qui implique justement qu'on accepte que l'autre apporte quelque chose de différent que ce qu'on pense. Alors elle se fait par l'interrogation. On veut savoir. Qu'est-ce que c'est que l'autre? Tandis que dans la dialectique, vous développez vous-même. Bon, alors, seconde interrogation, en quoi? La seconde interrogation. En quoi l'être? Ah, posez-vous la question. En quoi l'être? En quoi ce qui est du point de vue de l'être? Ça, c'est une très grave question et très importante. La question en quoi, prenez l'origine de la question en quoi. En quoi cette table, ça c'est très facile à comprendre. En quoi cette craie, c'est très facile à comprendre. En quoi cette montre, tout ça c'est facile à comprendre. Je vous dis tout de suite, hein, cette table, elle est de bois. C'est du bois, c'est pas du plastique. On a encore l'avantage d'avoir une table artisanale. Hein. Vous voyez, elle est très artisanale, c'est extraordinaire. Elle est au moins rugueuse, c'est évident. C'est pas du plastique, c'est quand même quelque chose. C'est vrai, c'est quand on vous sert une serviette en plastique ou une serviette. Ah, c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus agréable d'avoir une serviette qui soit une vraie serviette que du plastique. En quoi vous touchez ça? Et quand c'est du plastique, pas très bon. Quelque chose qu'on laisse de côté. Ça, c'est chose... Et c'est vrai, on la connaît trop bien. C'est pour ça que c'est du plastique. On la connaît trop bien. Alors, il n'y a plus pas la moindre admiration. Tandis que dès que c'est dans une réalité plus profonde, l'admiration demeure. Pourquoi est-ce que l'admiration devant une serviette qui soit du vrai tissu? En quoi il y a quelque chose qui résiste? Le plastique, ça ne résiste pas. C'est curieux, ça. C'est très curieux. Alors, en quoi? Bien, en quoi, c'est la question de la cause matérielle. Quand vous posez la question en quoi, c'est la cause matérielle. Cette question est parfaitement légitime quand vous êtes en face d'une réalité qui implique un devenir. Toute réalité qui devient implique une cause matérielle. Distincte de sa détermination. Toute réalité qui devient une œuvre d'art, ça va de soi, ça devient une œuvre d'art. Vous l'avez vu sous vos yeux se réaliser, une œuvre d'art. Hein. Vous avez vu ça. Vous avez vu la formation de cette fenêtre. Hein. Vous avez vu. Donc vous savez bien que c'est une œuvre d'art. Bon, vous avez vu couper les vitres, et ainsi de suite. En quoi? Cause matérielle. Tout devenir implique une détermination et une matière. Quand je passe du devenir à l'être, c'est un grand passage, hein, la génésis, comme disent les Grecs. Hein. Quand je passe de la génésis au toainan, à l'être, quand je passe de ce que représente le fait de devenir et l'être, est-ce que dans l'ordre de l'être, l'interrogation en quoi a encore un sens? Ça, c'est très très important. Ça, je crois qu'on peut tous le comprendre. Même si on n'est pas très fort en métaphysique, même si, évidemment, si on a très bien compris la substance, c'est plus difficile. Si on a compris un tout petit peu la substance, un tout petit peu ce que c'est que la détermination, on comprend tout de suite. Posez-vous la question, en quoi est l'être? Historiquement, question s'est posée. Historiquement, il y en a deux qui ont répondu de la même façon. Si vous voulez, trois. C'est quand même intéressant. Averroès. En quoi est l'être la matière? Ça, alors on va voir si c'est la matière. Vous savez très bien que pour un grec, la matière, c'est où l'être. C'est-à-dire le bois. C'est très beau, du reste. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est si important d'avoir une table, de toujours avoir devant soi une table de bois. C'est important, quand on fait de la métaphysique, d'avoir une table de bois. Parce qu'on a toujours où l'est. On a toujours la matière devant soi. C'est important de comprendre ça. Alors, la matière. Averroès dit ça. Ensuite, Lénine. Pas tellement qu'on dit que la matière était un principe propre de l'être. Vous comprenez que ça va très loin si je dis que la matière est un principe propre de l'être. Si je dis que la matière est un principe propre de l'être, tout être implique la matière. Il y a des théologiens qui ont dit ça. Avicebron. Ça ne vous dit pas grand-chose. Avicebron. Vous demanderez à M. Miralt, pour sembler très intelligent, vous demanderez qu'est-ce que c'est qu'Avicebron. Il vous dira. Avicebron, c'est un scolastique, évidemment, qui a dit que l'être impliquait la matière. Donc, Averroès, mais avant Averroès, les stoïciens. Les stoïciens ont dit en quoi l'être, la matière. Le corps est toujours présent. Un corps spiritualisé, mais c'est un corps. Une matière spiritualisée, c'est une matière. En quoi est l'être, la matière. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs. Hein? Les stoïciens, Averroès, Avicebron, Lénine. Et Lénine dit que la scolastique venant de Londres est toujours inclinée à considérer la matière comme faisant partie de l'être. Il dit ça, c'est très curieux du reste. C'est intéressant. Eh bien, où l'est la matière? Est-ce que je peux dire que, quand je pose la question, en quoi ce qui est du point de vue de l'être, c'est la matière? Eh bien, je dis non. En disant que la matière est un principe propre, comprenez bien. Parce qu'il y a deux problèmes qu'il faut éviter ici. Il faut éviter de dire que la matière est du non-être, à la manière de Platon. Et il faut éviter de dire que la matière est un principe propre d'être. Voilà les deux théories extrêmes. La matière n'est pas un principe propre d'être, et la matière pourtant existe. C'est bien évident qu'elle existe. La matière existe, mais elle n'est pas un principe propre de l'être. L'être ne s'appuie pas sur la matière. Pour être. C'est la matière qui s'appuie sur l'être, comme un petit dégradé. La matière, l'être ne s'appuie pas sur l'être. C'est la matière qui provient de l'être. Comme un être dégradé, un être tellement dégradé qu'il n'existe que dans le devenir. La matière, c'est un être qui n'existe que dans le devenir. Et je préciserai même après que la matière est un être qui n'existe qu'en puissance. C'est un être en puissance. Un être en puissance n'existe jamais sans le support d'un autre. Un être en puissance est tout entier relatif à un autre. Et donc il s'appuie sur un autre. L'être matériel est un être qui n'existe jamais en lui-même. C'est pour ça qu'il n'est pas un principe propre. Un principe propre se définit par lui-même. Il a son caractère propre. Tandis que quelque chose qui n'existe que en fonction d'un autre, tout entier relatif à un autre, ne peut pas être un principe propre. Il est second. Or, le propre, justement, d'un être en puissance, c'est d'être tout entier relatif à un autre. Nous verrons ça, à propos de la philosophie de l'acte et de la puissance. Donc, je dis que nous ne pouvons pas dire, et ça, nous pouvons en avoir l'évidence métaphysique. Et en disant ça, vous dites, on s'écarte de toute philosophie matérialiste. C'est pour ça que c'est important. Se purifier l'intelligence de toute philosophie matérialiste. Je me purifie de toute philosophie matérialiste en comprenant que, en interrogeant en quoi ce qui est du point de vue de l'être, Donc, en quoi est l'être? Je dis, eh bien, cette interrogation n'a pas de sens. Cette interrogation par rapport à l'être n'a pas de sens. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'une philosophie matérialiste, une métaphysique matérialiste a un sens. C'est important de comprendre ça. C'est important de saisir que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que ce qu'il y a de premier dans l'être, c'est l'ousia, la substance. Si ce qui est premier dans l'être implique une source de toute détermination, il ne peut pas y avoir de premier dans l'être qui soit une non-détermination. Or, la matière est une non-détermination. C'est une capacité à devenir. Mais c'est une non-détermination, le propre de la matière. La matière, c'est ce qui est capable d'être transformé en autre chose. Donc, ça implique une indétermination. Donc, ce qui est premier dans l'être ne peut pas être indéterminé. C'est pour ça que cette interrogation « en quoi est l'être ?» n'a pas de sens. Je reprends, parce que c'est important, je voudrais que vous en ayez l'évidence. Hein, parce qu'il faut en avoir l'évidence, hein. Pas simplement répéter, hein. Il faut en avoir l'évidence. Parce que ça purifie notre intelligence. Hein. Ça nous fait comprendre ce que c'est que l'esprit. Ça fait comprendre que l'intelligence, comme intelligence, est ordonnée à ce qui est du point de vue de l'être, et que l'intelligence, saisissant ce qui est du point de vue de l'être, découvre sa propre structure d'intelligence. Et que l'être n'est pas lié à la matière. L'être comme tel n'est pas lié à la matière. Alors, je reprends d'une autre manière, parce que c'est important. Vous savez bien qu'Aristote dit que ce qui est nu implique le point de vue de la nature forme et de la nature matière. Cette fameuse distinction d'Aristote, qui du reste n'est pas propre à Aristote, qui est propre. Que Platon lui-même dit, cette fameuse distinction de l'illéformisme, n'est-ce pas ? L'illéformisme, c'est de considérer que tout ce qui est mu implique une nature forme et une nature matière. Gilson dit, je le dis parce que historiquement c'est important de savoir, Gilson nous dit que cette distinction de la nature matière et de la nature forme, c'est ce qui caractérise l'Aristotélie. À partir de Gilson, ça a été répété. Ça se répète encore aujourd'hui. N'est-ce pas ? Parce que c'est toujours... Quand Gilson dit quelque chose, il y a des échos multiples. Je comprends, c'est assez normal. Alors ça se répète. Et Gilson dit que ce qui caractérise l'aristotélisme, c'est la distinction de la nature forme et de la nature matière. Alors, je dirais non. La distinction de la nature forme et de la nature matière caractérise la philosophie de la nature, mais ne caractérise pas la philosophie d'Aristote. C'est une petite distinction qui est capitale. Parce que la philosophie d'Aristote ne s'arrête pas au devenir. Aristote ne regarde pas seulement ce qui devient, ce qui est mu. Aristote regarde aussi l'être. Aristote est apparenté à Parménide, et Aristote veut répondre à Platon. Qui parle de l'être. Il faut donc savoir ce que c'est que l'être. Autrement, Aristote laisserait tomber toute une tradition grecque qui a commencé à Parménide, qui s'est continuée avec Platon, pour savoir ce que c'est que l'être. Aristote regarde à la fois ce qui est mu et ce qui est. Et quand Aristote est en face de ce qui est vu du point de vue de l'être, Aristote nous dit que la cause selon la forme de ce qui est, c'est l'ousia, mais il n'y a pas de cause matérielle de l'être. Aristote l'affirme. Il faut comprendre pourquoi. Donc, vous voyez, c'est là où on voit très bien que Gilson n'a pas compris. Il a compris simplement que ce qui caractérise la philosophie de la nature d'Aristote, c'est bien la nature forme et la nature matière, mais ce qui caractérise la philosophie tout court d'Aristote, c'est de comprendre que au-delà de la philosophie de la nature, il y a une philosophie première, qui est une philosophie de ce qui est vu du point de vue de l'être. Et cette philosophie de ce qui est vu du point de vue de l'être nous fait découvrir l'ousia, la substance, et une fois que je découvre que l'ousia est principe selon la forme de ce qui est, je peux dire immédiatement qu'il ne peut pas y avoir de principe propre matériel de l'être, puisque l'être est premièrement la détermination. Or, la matière implique l'indétermination. Ce serait contradictoire de dire que la matière est principe propre de l'être. Ce serait contradictoire par rapport à l'ousia. Vous voyez combien Aristote a saisi ça. Quand Aristote nous dit cette petite phrase qui a tracassé Gilson, je comprends, quand Aristote nous dit que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» ou « qu'est-ce que c'est que la substance ?» c'est la même interrogation. Alors là, je crois que vous comprenez tout de suite. Si c'est la même interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» et « qu'est-ce que c'est que la substance ?» je vois très bien que c'est impossible de dire qu'il y a un principe propre matériel de l'être. Parce que s'il y avait un principe propre matériel de l'être, ce ne serait plus la même interrogation qu'est-ce que c'est que l'être et qu'est-ce que c'est que l'ousia. Ce n'est pas à cause de ça qu'il le dit. Il le dit parce que l'ousia apparaît comme ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Si l'ousia est première dans l'ordre de l'être, se demander qu'est-ce que c'est que l'ousia et se demander qu'est-ce que c'est que l'être, c'est identique. Donc, pas de seconde interrogation. Ça simplifie beaucoup. La matière n'est pas une cause propre de ce qui est. Troisième interrogation. Troisième interrogation. D'où ? L'origine. L'origine de ce qui est. Ça, c'est beaucoup plus délicat et c'est très important. D'où vient l'être? D'où vient ce qui est vu du point de vue de l'être? C'est intéressant de se poser la question. Vous voyez, là encore, quand je suis dans l'ordre du devenir, d'où vient cette table? D'où vient cette table? Dites-moi un peu, d'où ça vient cette table? Ça vient de quelqu'un qui était un menuisier, qui a pris des planches, qui les a clouées. Successivement, il y avait une table. Il y avait une table en grand style. Alors évidemment, à ce moment-là, je sais d'où ça vient. Et je pourrais même la dater, si elle est d'un grand style, n'est-ce pas ? Il y a peut-être une signature, une signature cachée de celui qui a fait ça. Il a mis son sceau, parce que c'était quelque chose de beau. Alors il a mis son sceau. Alors voyez d'où ça vient. Je cherche l'origine, d'où ça vient. Et quand je cherche l'origine, d'où ça vient, qu'est-ce que je trouve ? La coefficience. D'où ça vient? D'où vient cette réalité? Je peux me poser la question pour toutes les réalités artistiques. D'où ça vient? N'importe quoi. D'où ça vient? Une réalité artistique. Une statue. D'où ça vient? Je cherche le lieu d'origine. D'où c'est sorti, l'artiste. Il y a plusieurs réelles choses. Je cherche la source. La source, non pas la source dans la détermination, mais la source de l'efficience, qui est encore plus source d'une certaine manière. L'efficience. Je peux me poser la question par rapport à toutes les réalités qui sont mues. Toutes les réalités qui sont mues par un autre. Ah, sont mues par un autre. Quand vous voyez une balle qui court, D'où ça vient ça? Il y a sûrement quelqu'un qui l'a lancé. Hein? Si on dit, ah non, personne ne l'a lancé. Elle court tout le temps. Il y a, non, c'est impossible. Parce qu'elle est dans l'ordre physique. Il faut bien, il y a quelqu'un qui donne un coup de chiffon au point de départ. Ça continue. Les satellites. Ça continue. Et jusqu'au moment où ça s'arrête. Hein? Mais ça continue. Ça continue. Hein? Indéfiniment, d'une certaine manière. L'origine. Quand il s'agit de l'être, je passe du devenir à l'être. Quand il s'agit de l'être, et je me pose la question d'où ce qui est, du point de vue de l'être, est. Je dis là encore, pas de cause propre de l'origine de l'être. Alors ça, ça scandalise. Donc, vous dites que l'être est éternel. Ce que Parménide dit, ce qui est en tant qu'être est éternel. Ce qui est en tant qu'être est au-delà de la génération. Ce qui est en tant qu'il est ne peut pas provenir d'un autre. C'est parfaitement vrai. Ce qui est en tant qu'être n'a pas d'origine. Alors c'est affolant. Tout le problème de la création, vous voyez, petit croyant qui est en moi, problème de la création. Donc vous êtes païen en disant ça. Non. Le problème de la création, ce n'est pas découvrir la cause propre de ce qui est du point de vue de l'être. C'est découvrir la cause première. Distinguons bien la cause. Cause première. La cause propre fait partie de la structure même de la réalité. Fait partie de l'analyse. La cause première ne fait pas partie de l'analyse. C'est deux choses tout à fait différentes. Et alors là, on a confondu lamentablement ces deux choses-là dans la base scolastique. On a confondu les deux. Et alors à ce moment-là, on est tombé dans l'ontologisme. L'ontologie, c'est la confusion de cette cause propre et de la cause première. Ce qu'on appelle l'ontologisme. L'ontologisme est une maladie philosophique. C'est un virus. C'est un virus qui est très très fort, très puissant. C'est un virus. Alors il faut bien le détecter. Il faut savoir le détecter tout de suite. Eh bien vous le détectez tout de suite, ce virus, en voyant confusion entre la cause propre et la cause première du côté de l'efficience. Et des quantités font cette confusion, surtout les saints gens. C'est le virus des saints gens qui font de la philosophie. Alors, ils font une espèce de patio, parce qu'il y a des patios pieux, vous savez, c'est des tartes à la crème, n'est-ce pas ? Alors, c'est quelque chose de très, très lourd, c'est très, très lourd, c'est des boudins, c'est très, très lourd, tout est dedans. N'est-ce pas ? Alors, à ce moment-là, vous confondez la cause propre et la cause première. La cause première qui est ultime, qui est dernière. Le problème de la création est un problème premièrement religieux. Toujours important de voir d'où vient le problème. Le problème de la création est premièrement un problème religieux. Toutes les traditions religieuses parlent de la création. Vous savez bien. Toutes les traditions religieuses. Et la plus ancienne tradition religieuse que nous avons dans ce domaine-là, c'est une tradition du mythe qui vient de la Colombie. Au point de départ, au commencement, était le soleil et le canard. J'aime l'oublier. Ça, c'est très, très bon. C'est le mythe colombien qui est le plus ancien. De ce que nous avons découvert, on pourra découvrir quelque chose encore plus ancien que le canard et le soleil, mais au fond, au point de vue du mythe colombien, c'est ça. Alors, c'est une vieille tradition religieuse. Les traditions religieuses parlent de la création. Mais le philosophe, lui, va se demander ensuite, est-ce que c'est un mythe où il y a un fondement réel derrière ? Et pas tout de suite. Il analyse d'abord ce qui est. Et lorsqu'il analyse ce qui est, il dit ce qui est au-delà du devenir, et donc ce qui est au-delà de la cause efficiente. Ça, c'est très très curieux. C'est beaucoup plus difficile à saisir. Mais vous voyez, les deux grands dangers de la métaphysique, c'est le matérialisme et l'ontologie. C'est très curieux. Eh bien, c'est le dépassement de ces deux grandes interrogations. Ces deux grandes interrogations, où en quoi est l'être et d'où vient l'être. L'ontologisme qui est très très fort, vous savez, c'est l'ontologisme qui a donné naissance à tous les athéismes. Donc c'est important, si on veut lutter contre l'athéisme, de comprendre la source de l'athéisme. Et la source de l'athéisme, c'est l'ontologisme. Et l'ontologisme a commencé dans un climat de théologien. Et c'est le théologien qui était tellement familiarisé avec la création qui a dit, mais c'est très bien, c'est tout de suite. Vous voyez, la cause propre de l'être, la création, pas du tout. C'est la création, c'est la cause première, et non pas la cause propre. Donc, il faut bien distinguer que lorsque je me pose la question d'où vient ce qui est en tant qu'être, l'origine de ce qui est en tant qu'être, c'est-à-dire la cause efficiente propre de ce qui est, ça n'a pas de signification. L'être, ce qui est du point de vue de l'être, n'a pas d'origine immédiate. Il est. C'est ce que montre admirablement parmi nous. Il est. C'est vrai, il est. Il est au-delà de la génésis. Il est au-delà du devenir. Et donc, il n'a pas de cause propre. Alors que tout ce qui devient a une cause propre. Et là, encore une fois, c'est une purification très très importante de ce que nous avons, surtout en tant qu'être religieux. En tant qu'être religieux, spontanément nous disons, mais oui, la cause de l'efficience, mais c'est la création, c'est Dieu. Non. C'est la cause première. C'est la cause première. C'est, vous voyez, alors les deux, je crois que c'est très très important de comprendre ces deux errements. Ces deux errances de la métaphysique, l'une par le bas, l'autre par le haut. Et à ce moment-là, vous tuez la métaphysique, vous supprimez la métaphysique, et vous faites de la métaphysique ou par le point de vue matérialiste, ou par le point de vue d'une certaine idéalisation. Et vous regardez toujours tout de suite, l'ontologisme, c'est de bloquer la cause efficiente propre avec la cause première. Il faut au moins retenir ça. J'essaie de le comprendre. Alors, pour le comprendre, posez-vous la question, ce qui est, comme tel, du point de vue de l'être, s'impose à moi? Et son origine, je ne peux pas la saisir, il est. Ah, vous allez dire, ah, il implique un devenir. Ah oui, il implique le devenir, je peux saisir. La source de son devenir, c'est très vrai. Cette table, elle est. Elle existe, cette table. Cette table, oui, elle implique un devenir. C'est très vrai du côté de devenir, je veux dire. Mais en tant qu'elle est. Alors, je veux dire, évidemment, cette table est une œuvre matérielle et donc il y a une matière. Très, très bien. Alors, cette matière, elle, fait appel à une cause efficiente. Tout ce qui est mu par un autre. Donc, s'il implique une cause efficiente, ça, je peux le regarder. Mais c'est la matière. C'est pas sa forme. Sa forme, elle est. On va dire, mais sa forme, elle fait-elle à un cerveau qui a pensé ça comme cause exemplaire. Oui, c'est vrai. Mais la cause exemplaire n'est pas directement la cause efficiente. Ce qui est en tant qu'il est n'implique pas de cause efficiente. Ça, c'est abrupt. C'est très bien. Vous le comprendrez mieux après. Enfin, on aura terminé la métaphysique. Quatrième interrogation. En vue de quoi? En vue de quoi ce qui est du point de vue de l'être? Cette quatrième interrogation, c'est l'interrogation de la fin. Je veux savoir le pourquoi. C'est le pourquoi dans toute sa force. C'est le TST. Qu'est-ce que c'est du point de vue de son pourquoi? En vue de quoi une réalité existe? Ce qui est. Aristote nous dit, très simplement, comme toujours Aristote, il croit qu'on est très très intelligent, qu'on a tout compris. Aristote nous dit qu'il n'y a que deux causes de l'être. La cause formelle et la cause finale. Il le dit. Il s'agit de chercher ce que c'est que l'être, il n'y a que deux causes, la cause formée, la cause finale. Alors, je peux le répéter, et je peux essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, quand je me pose la question, en quoi ce qui est du point de vue de l'être, qu'est-ce que ça veut dire comme interrogation? L'interrogation, en vue de quoi, c'est toujours chercher la finalité. En vue de quoi un cours de métaphysique? En vue de quoi un cours de métaphysique? Il faut poser de temps en temps la question pour que le cours de métaphysique prenne toute sa signification. En vue de quoi un cours de métaphysique? C'est pour aiguiser votre intelligence et l'éveiller. Pour que votre intelligence sorte de la génésis. Si vous ne faisiez pas de métaphysique, vous seriez toujours dans le devenir. Perpétuellement dans le devenir. Le cours de métaphysique, c'est de faire comprendre qu'il y a un au-delà du devenir. Qu'il faut découvrir ce qui est du point de vue de l'être. C'est ça la métaphysique. Et donc, que votre intelligence s'éveille comme intelligence. Parce que votre intelligence n'est pas faite premièrement pour le devenir. Votre intelligence est faite premièrement pour saisir ce qui est. Pourquoi? Parce que votre intelligence n'est pas liée à la matière. Ah, tiens. Si votre intelligence était liée à la matière, votre intelligence serait en commune naturalité avec le monde matériel, et donc le monde du devenir. Mais comme votre intelligence est esprit, elle n'est pas liée à la matière, et donc elle est liée à l'être. Et tant que votre intelligence n'a pas découvert l'être, votre intelligence est errante. Votre intelligence est affamée. Elle n'a pas découvert son bien. Là, vous tirez la langue. Mais dès que vous découvrez un tout petit peu ce que c'est que l'être, vous découvrez ce pourquoi votre intelligence est faite. Elle est faite pour découvrir ce qui est du point de vue de l'être. C'est extraordinaire, ça, du reste. Hein. C'est intéressant de découvrir le pourquoi de la métaphysique, le pourquoi de la philosophie première. Découvrir que mon intelligence est faite pour découvrir ce que c'est que l'être. Mais maintenant, je me pose la question du pourquoi de l'être. C'est encore mieux. Le pourquoi de l'intelligence, ça va encore. Mais le pourquoi de l'être, oui, c'est le pourquoi du pourquoi. Puisque l'intelligence est faite pour l'être. Et l'être, il est fait pour quoi ? Il est fait pour quoi ? L'être. Alors évidemment, votre âme religieuse dira, il est fait pour glorifier Dieu. Est-ce que c'est une réponse philosophique ? Ce qui est fait pour glorifier Dieu. Tout à fait d'accord, je ne suis pas du tout contre ça. Je ne suis pas du tout contre ça. Mais est-ce que c'est une réponse philosophique ? Non. C'est une réponse de sagesse. C'est une réponse dernière. Mais ce n'est pas une réponse philosophique. L'être, il est fait pour quoi ? Il est fait pour être. Et c'est vrai, l'être, il est fait pour être. Je ne peux pas relativiser l'être. Même pas en le relativisant à l'égard de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Une fois que j'ai compris ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, si j'avais été le créateur, j'aurais relativisé l'être. Hein? Chacun d'entre nous aurions fait ça. Donc, Dieu ne relativise pas l'être. Même un être créé n'est pas relativisé. C'est fou, ça. C'est extraordinaire, regardez ça. C'est merveilleux. Alors, je commence à comprendre ce que c'est que la philosophie première qui montre que l'être n'est pas relativisable. L'être n'est pas relativisable. L'être, il est. Il est avec tout son absolu d'être. Et c'est ça que je me pose la question. En vue de quoi l'être ? L'être, il est pour l'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que l'être, il est pour l'être ? Oui, il est pour l'être. Il est pour que l'être soit parfaitement être. Oui, parce que l'être peut être dans des états qui sont moins parfaits. Alors, l'être, il est pour l'être. Quand je dis que l'être, il est pour l'être, je veux montrer que l'être est capable d'être parfait. Comme être. Et en disant ça, je découvre l'être en acte. Donc, en vue de quoi l'être? Et l'être en acte, c'est l'être qui, justement, est parfait comme être. L'être se finalise par l'être. L'être se finalise par l'être. Il faut arriver petit à petit à comprendre ça, hein, que ça prenne une signification pour vous. Et c'est bouleversant, du reste. Hein. C'est merveilleux au point de vue métaphysique. C'est une des choses les plus bouleversantes. Découvrir la substance, c'est très beau, c'est très grand. C'est le puits. Tandis que là, c'est la flèche. L'être, il est fait pour être. Vous allez me dire, ça c'est l'égoïsme métaphysique de l'être. Hein. Pas étonnant que l'intelligence soit égoïste. Et ben, ça, c'est pas du tout. C'est tout simplement l'intelligence qui respecte ce qui est. Mais si je relativisais l'être, je ne respecterais pas l'être. Et vous voyez, tous ces auteurs qui disent Dieu sans être, ça prouve qu'ils n'ont rien compris à l'être. Parce que c'est le plus grand blasphème fait à Dieu. C'est pas respecter que Dieu a réalisé l'être avec son absolu. Alors c'est pour ça qu'ils disent Dieu sans être. C'est parce qu'ils ont relativisé l'être. Ils n'ont pas compris que l'être a un absolu. Ils n'ont pas compris ça. Et parce qu'ils n'ont pas compris ça, ils disent Dieu sans être. Alors le comble de l'histoire, vous pouvez regarder, parce qu'il est dans la maison. Alors, je ne dis pas à qui, hein, parce que je laisse à l'auteur principal, l'auteur pas principal. Mais alors il y a cette chose extraordinaire, parce qu'il faut toujours regarder un livre et on demande au Saint-Esprit de tomber sur la page idoine. Alors j'ai trouvé cette chose merveilleuse. Dieu sans l'être. Dieu est amour. Hein, c'est dit dans l'Écriture. Dieu est amour. Alors vous comprenez très bien, si je dis Dieu sans l'être, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, vous voyez, ça c'est de l'exégèse. Je mets entre parenthèses et je dis Dieu amour. Oui, mais c'est pas ça qui est dit. Dieu est intelligent quand même. Et Dieu a dit Dieu est amour. Dieu n'a pas dit Dieu amour, il a dit Dieu est amour. Parce que et ne relativise rien. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça la question en vue de quoi l'être. Et ne relativise. Exister ne relativise rien. Au contraire, ça montre l'absolu. Et donc quand je dis Dieu est amour, je ne relativise pas amour. Et je ne relativise pas Dieu. Je veux que Dieu existe dans son amour. Il est l'amour. Alors, je trouve ça, c'est un chef pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment. Hein. Il faut vraiment avoir une idéologie de l'être pour faire ça. Et c'est la seule réponse à donner. Parce que relativiser l'être, c'est penser l'être et le relativiser. Et donc c'est oublier que l'être, c'est ce que l'intelligence atteint comme quelque chose d'absolu. Et donc c'est le relativiser dans une idéologie. C'est ça qu'il faudrait répondre. Alors vous voyez, c'est important cette question. C'est pour ça que je vous montre, parce que tout ça se tient. C'est quand j'essaie de découvrir en vue de quoi l'être, je découvre que l'être n'est pas quelque chose de relatif. Je l'ai déjà découvert par Lousia. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut montrer que l'être n'a rien de relatif, ni du côté de son fondement, ni du côté de son terme.